Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Gaïsset. Bonjour, monsieur Gaïsset.
Bonjour.
Il est conseiller du président de l'ACMS. Alors, l'ACMS, c'est l'organisme de la médecine du travail en Île-de-France.
Santé au travail.
De la santé au travail.
Voilà.
Et donc, vous avez animé hier, dans le cadre du MEDEF Île-de-France, une table ronde santé au travail, le sommeil, enjeu de productivité, avec Harmonie Mutuelle. Alors, monsieur Gaïsset, j'ai trouvé que c'était un sujet très, très intéressant parce que, effectivement, quand on travaille, il nous arrive, hein, je vous le confiais tout à l'heure, moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir un petit moment d'assoupissement involontaire et ça peut avoir des conséquences absolument terribles. J'ai lu dans une étude que, par exemple, des grandes catastrophes comme le naufrage de la Mococadis, l'explosion de l'usine à Bhopal, le Tchernobyl, etc., avaient eu lieu la nuit à des moments où les gens avaient eu un endormissement.
Tout à fait.
Donc, c'est un vrai sujet de société. Et donc, vous, à la CMS, vous militez pour une prévention.
Tout à fait.
Alors, vous allez nous expliquer un petit peu ce qui s'est dit lors de cette table ronde
voilà,
hier.
D'accord.
Et puis, quelle est votre démarche, la démarche de vous-même, hein, de votre organisme, et puis y compris des autres partenaires.
Tout à fait. Écoutez, c'est vraiment intéressant de voir à partir d'études scientifiques. On avait la présidente Joëlle Adrien, qui est présidente de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Et une étude qu'ils ont faite prouve qu'on a 19% des salariés qui reconnaissent s'assoupir et s'endormir au travail. Alors, ces salariés, ils sont souvent dans des secteurs extrêmement définis. On parle d'horaires atypiques, on parle de décalage horaire. Si aujourd'hui, vous le savez comme moi, on a des relations internationales très importantes. On a aussi des problèmes de logistique avec des mobilisations de ressources humaines à des heures soit très tôt, soit très tard. Bon, donc on a dans des métiers, on va dire, très spécifiques, et les professionnels de ces métiers commencent maintenant d'une manière, on va dire, très professionnelle à s'y intéresser. Dans ces métiers, on a l'accompagnement des services de santé au travail, des médecins du travail, qui sont extrêmement vigilants sur cette problématique de facteurs de risque. Voilà, je crois qu'il faut essayer de raisonner sur les facteurs de risque. Il y en a un qui est vraiment extrêmement important, c'est tout le numérique. Aujourd'hui, on arrive dans une société où on a évidemment, et vous le savez, des tensions par rapport à l'urgence, un certain nombre de choses à faire. Et au-delà de cette urgence, on a des outils d'information qui nous demandent une réactivité permanente. Avant, on avait des temps de réflexion, des polarités de pause, Et aujourd'hui, on est dans des logiques un peu disons, d'accélération, qu'il faut essayer de freiner avec une logique aussi de compatibilité avec un bon niveau de production et de créativité. Parce que notre modèle social, il tiendra si le facteur économique aussi est performant. Donc on doit conjuguer modèle social, qualité de vie au travail, qualité du travail et compétitivité. Alors, par rapport à ça, je pense que les scientifiques... Alors, c'était dans la table ronde. Joëlle Adrien, elle nous a dit une chose en termes scientifiques. Nous avons une horloge biologique. Elle est neurobiologiste, présidente de l'Institut. Cette horloge biologique, elle nous dit, on est du matin, on est du soir. Ce qu'il ne faut pas, c'est décaler le fonctionnement de notre horloge biologique. Mmh. Et elle conseille, par exemple, par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies, de nos portables, elle nous dit, chaque fois que vous êtes devant un petit écran, alors, l'écran surtout du portable, il déclenche le démarrage de votre horloge biologique. Si vous le gardez pratiquement pour aller dormir, vous décalez complètement vos horaires de sommeil. Donc elle dit, une heure avant votre sommeil, vous lâchez le portable, vous faites le couvre-feu numérique, parce que c'est fondamental. Parce que ces écrans sont des déclencheurs d'éveil en permanence. Et moins, comme vous disiez d'ailleurs, dans notre conversation précédente, que les écrans de télévision qui sont plus à distance et qui sont un peu moins impactants. Mais notre petit écran de portable... Alors, ces accidents, ces conséquences qui peuvent avoir des conséquences très importantes pour les tiers, pour soi-même et pour les tiers, Et il y a une responsabilité de l'employeur maintenant sur les conséquences pour les tiers dans les nouvelles réglementations. Oblige, si vous voulez, aujourd'hui, à prendre un certain nombre de mesures dans les entreprises, de prise en compte dans les entreprises de moments de repos. Et on avait Sophie Fegueux, qui est conseillère technique à la santé, qui est auprès du délégué interministériel à la sécurité routière, donc qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui est docteur, médecin, qui nous expliquait comment on avait aussi mobilisé des entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui ont fait des engagements. Il y a eu aujourd'hui, il y a à peu près un certain nombre de salariés couverts. Je crois qu'il y a pratiquement 2 millions de salariés d'entreprises de transport, de logistique, etc., dans différents secteurs, qui se sont engagés sur des actions, si vous voulez, qui permettent de garder un peu plus de vigilance dans les transports, dans la conduite.
Oui, parce que alors là, c'est mortel. Hein.
C'est mortel.
Quelqu'un qui sort au volant...
Et puis, vous savez que nos auditeurs doivent peut-être le savoir, mais la moitié des accidents mortels du travail, c'est des accidents de la route. Donc c'est fondamental qu'on donne des bonnes informations, des bonnes conduites à tenir pour conduire. Mmh. Et elle faisait remarquer que on a donc l'engagement que la sécurité routière a fait, 21 dirigeants d'entreprise ont signé l'appel national donc en faveur de la sécurité routière de leurs salariés. Et il y avait 7 engagements. Alors je les lis parce qu'ils sont ils sont simples, mais c'est vraiment un engagement d'entreprise pour les salariés en ayant discuté avec les partenaires sociaux. Hein. Donc, la sobriété sur la route, les médecins du travail sont tout à fait vigilants par rapport aux conseils à donner par rapport à la manière de pouvoir se présenter au volant. Les exigeants, le port de la ceinture, on nous a expliqué qu'il y a aussi une manière de mettre la ceinture qui est importante. Il y a des choses à apprendre sur la manière de mettre la ceinture. Là, on n'accepte pas dans l'engagement le dépassement de vitesse autorisée. Mais c'est quand même des engagements moraux, éthiques. Hein, je crois que c'est important. Ils intègrent des moments de repos dans le calcul du temps de trajet. C'est très intéressant. Ça veut dire que l'employeur, il est conscient qu'il faut du temps de repos parce que ça va donner de la vigilance et de la capacité donc à conduire.
Ça, c'est nouveau, notamment pour le transport, pour les entreprises de transport.
Ceux qui ont signé les engagements ont fait ça. Donc c'est à saluer. C'est très important. Et puis nous favorisons la formation à la sécurité de nos salariés. Tout ça, c'est aussi accompagné par des actions de formation. Et nous encourageons les conducteurs de deux roues à mieux s'équiper. Donc ça, c'est une bonne initiative de la sécurité routière, des délégués à la sécurité routière, qui est portée par les entreprises avec une prise de conscience que, on doit évidemment... Alors, il y a 3 éléments, vous savez, dans la sécurité routière, pour aller vite. Il y a la route, la qualité de la route. Il y a le véhicule aussi. Et c'est très important, l'équipement des véhicules. La caisse d'assurance maladie a d'ailleurs fait des financements spécifiques pour améliorer l'aménagement des véhicules.
L'aménagement intérieur.
Intérieur, de véhicules de transport, etc.
Pour que ce soit plus confortable,
pour éviter qu'à des coups de frein, vous ayez des engins qui viennent vous percuter le crâne. Vous voyez, la France, et le troisième point, c'est l'homme. Le troisième point, évidemment, c'est les personnes qui doivent être, évidemment, bien informées. Et puis aussi, en même temps, qu'on comprenne les facteurs de risque. Parce qu'il peut y avoir aussi les médicaments.
Oui.
Alors, ils ont fait un travail aussi sur les médicaments, parce qu'il faut savoir qu'il y a des médicaments, parce que des gens sont parfois obligés de prendre des médicaments. Alors, comment peut-on trouver la compatibilité? Alors, sur les boîtes, on essaye maintenant de mettre des pictogrammes, nos médecins du travail savent tout ça. On a de l'information à donner aux personnes pour pouvoir leur donner la meilleure attitude à tenir par rapport à leur propre situation. Je crois que c'est ça. La médecine du travail et la santé au travail, vous voyez. Et les services de santé au travail sont vraiment intéressés à ces sujets-là. Ces sujets qui sont au fond des sujets du rapport à la personne, mais dans un collectif. Donc on a et puis avec des partenaires, parce qu'il faut travailler avec des partenaires. Ces partenaires, ce sont des scientifiques, ce sont aussi des techniciens, des ingénieurs, des ergonomes, des psychocliniciens, des psychologues du travail et même des assistantes sociales, parce qu'il y a aussi des problèmes de précarité parfois qu'il faut résoudre. Parce que on parlait ensemble, l'Île-de-France, il y a le Grand Paris, mais sachez qu'en Île-de-France, on a un temps moyen de 2 heures de transport. Alors si déjà, pour arriver à son travail, il faut du temps.
Heure,
Et si en plus on a ce qu'on appelle des contraintes de vigilance et de difficultés par rapport à sa propre autonomie, ça fait beaucoup pour les personnes et pour une tranche de population. Donc l'environnement joue énormément. Les politiques sont en train de prendre de très grandes mesures pour améliorer tout ça. Tout ça, on peut saluer. Nous avons des scientifiques qui peuvent dire à nos chefs d'entreprise, et ça a été fait comme ça au MEDEF, on l'a dit. Prenons conscience des travaux qui sont faits par des scientifiques, regardons les conséquences pour les personnes et aussi les effets positifs ou évidemment négatifs si on n'en tient pas compte pour l'entreprise. Tout le monde y gagne. Et donc on était ensuite avec une autre intervenante, c'était Renault.
Oui, alors on m'avait dit, ils ont créé des salles
de repos,
ils appellent on peut dormir calme. Un petit peu.
Oui, tout à fait. Ouais. Parce que là, la sieste, la sieste flash pour certains métiers qui sont demandés entre, par exemple, 13h et 15h, c'est des périodes comme ça où il y a de l'assoupissement, mais c'est réparateur quand vous avez un déficit de sommeil. C'est très, très, très important de pouvoir se reposer. Alors, on accompagne ça, il faut l'accompagner, hein, la sieste flash. C'est des siestes réparatrices qui sont, dans la biologie, on parler d'horloge biologique, c'est fondamental tout ça. C'est fondamental pour la capacité à travailler d'une manière intelligente et productive. Productive au sens noble, c'est-à-dire créatrice. Quoi.
Oui, sans se démolir soi-même.
Voilà. Et puis, vous savez, il y a les effets induits de l'absence de sommeil. C'est l'irritabilité, parce qu'il peut y avoir un cercle vicieux, un cercle non vertueux. Quand vous êtes fatigué, vous êtes irritable. Oui. Quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas obligatoirement très aimable avec vos collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça peut... si l'organisation n'est pas bien conçue, ça peut encore plus dégrader le système. Alors, évidemment, il y a des organisations qui génèrent de la fatigue. Alors, il faut les médecins du travail, avec les employeurs, peuvent prendre conscience de ça, que des organisations sont délétères pour la santé. Il faut ce qu'ont fait les personnes qui ont signé là. Ils ont vu que, voilà, et on peut améliorer l'organisation et on peut en même temps prendre en compte un certain nombre de situations personnelles. C'est là que la médecine du travail, la santé au travail peut être, on va dire, très efficace. Des situations personnelles spécifiques qui sont repérées et sur lesquelles on va pouvoir travailler à la fois avec l'employeur et avec les salariés. Et là, Renault, c'est très intelligent. Ils ont ces cabines de calme space qui sont réparatrices. Et c'est très bienvenu et ça fonctionne très bien. Voilà.
Alors, il y a des pays où on est plus avancé là-dessus.
Il y a des pays, les pays nordiques toujours plus avancés, les pays, disons, qui sont peut-être un peu plus à l'écoute, peut-être en avance par rapport à nous sur la professionnalisation de la prévention. Nous, on commence, d'ailleurs, la ministre de la Santé, aujourd'hui, on parle beaucoup, et les partenaires sociaux, c'est très intéressant, le plan santé-travail français, vous voyez, c'est un plan qui est porté à la fois par les chefs d'entreprise, les représentants des employeurs, et les représentants des salariés. Ils ont tous été d'accord pour dire l'orientation, maintenant, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire aller voir les facteurs de risque en amont. Et ça, les Français sont en train de... Éducation thérapeutique, par exemple, c'est très important de dire aux gens qui ont des maladies chroniques comment on peut, d'une manière, on va dire, préventive, éviter de prendre des risques dans son travail, alors que le travail, les médecins le disent, et c'est très important, est réparateur de problématiques de santé. Oui. Par exemple, retourner, dans de bonnes conditions d'adaptation des postes au travail, ça vous donne beaucoup plus de capacité à trouver des réponses sur votre propre santé. Parce que être en dehors du travail, c'est ce qu'on appelle en termes politiques là dans le plan de prévention, le plan national de prévention de santé au travail, c'est ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle.
Oui, c'est ça, de la désocialisation, d'une certaine façon.
Exactement. Donc il faut le faire le plus rapidement possible. Enfin, évidemment, tout ça doit être fait à la fois avec l'accord des personnes. Les médecins de plus en plus doivent faire passer l'idée de la pré-reprise, par exemple, une fois qu'on a eu une opération. Bon, il faut regarder le temps d'adaptation personnelle par rapport à ces opérations, mais aller voir son service santé au travail, son médecin du travail, regarder comment on peut adapter un poste, c'est très important. C'est très important pour ne pas être dans la désocialisation. Et pour revenir sur le sommeil et la vigilance, les idées qui... Alors, autre personne qu'il y avait la sophrologue. Hein. Oui. On était sur l'accompagnement du comportement pour faire ces pauses-là. Elle s'appelle Caroline Rome, qui était là, et le docteur Guillemette Latcha, c'était le médecin coordonnateur du groupe Renault. Et on avait Sophie Feugeux, qui était la conseillère technique santé de la déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Voilà. Eh bien, écoutez, monsieur Gaïsset, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et je souhaite une bonne journée à tout le monde, et pas trop de sommeil là, cette heure-ci.
Beaucoup de sommeil réparateur.
Beaucoup de sommeil réparateur, mais pas trop de sieste.
D'accord, d'accord, très bien.
Oh, laissez-moi dormir, mes oiseaux, pour escorte, je vais, le rêve me porte.